en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Monsieur le chancelier, monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel, mes chers confrères, mesdames, messieurs, j'imagine que ma présence parmi vous, qui m'honore et en même temps qui m'impressionne, car j'appartiens à une académie plus habituée à l'analyse méthodique et critique, parfois pointilliste, qu'à la réflexion synthétique, est due à ma participation répétée au programme aujourd'hui achevé sous sa forme orale de Jean Béchler sur la guerre, histoire et géographie, anthropologie, sociologie, psychologie. Dans cette approche totale, l'une des questions posées fut celle des rapports entre l'opinion publique, l'arrière, et la guerre. On songe bien sûr à toute la littérature suscitée à l'échelle internationale par le cas exemplaire de la Première Guerre mondiale, mais de plus en plus, me semble-t-il, la Seconde Guerre mondiale est examinée sous cet angle. Quel était l'état de l'opinion publique en Allemagne au début de 1945 ? Dès 1954, un historien belge, Jean Stengers, a publié une étude intitulée « Aux origines de la guerre de 1870, gouvernement et opinion publique ». Et c'est un problème qu'il faut examiner à la fois lors du déclenchement, pendant la durée de ces conflits, et puis aussi à leur issue. Compte tenu de mes centres d'intérêt et de ma spécialité, que vous avez bien voulu rappeler, la question devient, est-il possible ou pertinent d'étendre cette problématique aux guerres médiévales ? Les croisades qui ont fait l'objet, croyez-moi, d'une propagande intense de la part de la papauté, le Negotium Fidei, la guerre de Cent Ans, qu'il faut examiner des deux côtés, du côté anglais comme du côté français, pour retenir deux exemples. Dans un contexte politique, mental, social, si différent de celui que l'Occident connaît, pour faire bref, depuis l'avènement de la démocratie ou depuis que le peuple a pris la parole. C'est dire combien je suis reconnaissant à votre académie de me donner l'occasion de me pencher sur le concept d'opinion publique, appliqué aux hautes époques. Je commencerai par une citation de Christine de Pisan, cette femme de lettres qui fut aussi, vers 1400, une authentique féministe. Citation. « Je m'émerveille trop fort de l'opinion d'aucun homme qui ne voudrait pas que leur fille, femme ou parente, apprenne science et que leur mœurs empireraient. Par ce, peux-tu bien voir que toute opinion d'homme ne sont pas fondées sur raison et que ceux-là ont tort car il ne doit non être présumé que de savoir les sciences morales et qu'apprendre les vertus, les mœurs en doivent empirer, mais ce n'est point de doute qu'ils ne amendent et ennoblissent. Comme donc est-il à penser que qui suit bonne leçon et doctrine en doit empirer ? Ici apparaît une distinction non seulement importante, mais semble-t-il durable. Il y a certes des opinions, mais toutes ne sont pas également valables. Pour Christine, qu'avec de tels propos et bien d'autres, vous n'auriez pas manqué d'accueillir parmi vous, il convient de ne retenir que les opinions sages, raisonnables, nous dirions éclairées. On vient de le voir dans le français de la fin du Moyen-Âge, 14e, 15e siècle par convention, le mot « opinion » est d'usage courant, avec sensiblement le même sens qu'aujourd'hui. Ainsi, il était normal de donner son opinion lors d'une délibération. À l'occasion, il est parlé de l'opinion d'une communauté, d'un pays. Quant au mot « public », substantif et surtout adjectif, on le trouve dans des expressions telles que « place publique »,« voie publique »,« cri public », »,« charge publique »,« notaire public »,« femme publique »,« puissance publique »,« paix publique », »,« bien public »,« chose publique », l'intérêt général d'un pays, en 1465, il lui-même, ce que ceux qu'il avait fomenté appelaient la guerre du bien public, alors que ses adversaires y voyaient la guerre des biens particuliers, voire du mal public. On trouve aussi l'expression « la voix publique du peuple ». En revanche, je n'ai pas trouvé telle quelle l'expression « opinion publique ». Il y a donc une certaine dose d'anachronisme à l'employer, comme je l'ai fait. Vous avez bien voulu le rappeler, Monsieur le Président, au début du Charles VII. Alors, quelle définition retenir? De façon dépourvue de toute originalité, je dirais qu'il y a opinion publique à partir du moment où un ou plusieurs individus rendent publique leur opinion privée. En ce sens, les opinions sur un événement, un fait, une croyance, une personne peuvent être communes ou variées, divergentes ou convergentes. Mais il y a aussi l'idée que sur un sujet donné, et dans le cadre d'une communauté ou d'un groupe donné, il existe une opinion dominante qui s'imposerait naturellement à tous. L'opinion publique devient alors l'ensemble des idées ou des jugements partagés par la majorité des membres d'une société, en particulier en ce qui concerne le champ politique, social et culturel. Je cite Pierre Larousse, « L'opinion publique est le sentiment universel, la manière de voir ou d'apprécier qui est commune à la grande majorité des hommes d'un pays. » Du coup, cette opinion prépondérante passe pour la reine du monde à laquelle il serait malvenu ou impossible de résister. Et nous retrouvons la célèbre formule de Voltaire, « L'opinion est si bien la reine du monde que quand la raison veut la combattre, la raison est condamnée à mort. » Il est admis qu'en France et dans l'Europe éclairée, c'est seulement à partir du milieu du XVIIIe siècle qu'une authentique opinion publique est perceptible. Les historiens se font forts, pour les décennies précédant la Révolution, d'identifier à la fois l'opinion éclairée, telle qu'elle s'exprime dans les académies, les sociétés de pensée, les salons, la librairie, et l'opinion populaire, au moins à Paris. Arlette Farge, Mona Ozouf, Daniel Roche. L'opinion publique dans l'Europe des Lumières, c'est un livre qui est paru sous la direction de Bertrand Binoche et d'Alain Lemaître. Et ce serait seulement à partir du siècle suivant, le 19e, que l'opinion publique, à l'âge du positivisme politique et de la démocratisation, eut tendance, en fait comme en droit, à devenir l'instance suprême au détriment d'une vision théologique des choses. On trouverait une formulation de cette idée dans la pensée de Benjamin Constant à l'ancestrale question de savoir comment articuler le théologique et le politique se substitue celle de déterminer les rapports du politique et de la presse. Un autre registre. Dans le même ordre d'idées, pour Tocqueville, toute société doit se réfléchir sous la forme de préjugés. Or, la nouveauté de la démocratie, c'est que l'autorité qui confère à ces préjugés leur efficacité, ce n'est plus l'Église, c'est le public, l'opinion publique, considérée comme une sorte de tribunal. Le tribunal de l'opinion, disait déjà Malesherbe. Sans possibilité d'appel de ces jugements. Tout se passe comme si la vox populi s'était substituée à la vox dei. L'opinion publique serait la religion propre à l'âge démocratique, au détriment du jugement des experts, des savants, des sages, au détriment aussi des organes représentatifs. S'exprime aussi l'idée que le pouvoir voit dans le recours à l'opinion publique, paradoxalement, un contrepoids à l'action de la rue, aux manifestations violentes, aux soulèvements populaires, aux primitifs de la révolte. Par une ruse de la raison, l'opinion publique, loin d'affaiblir le pouvoir, le consoliderait, surtout si ce même pouvoir s'emploie non seulement à l'instrumentaliser, mais à la modeler par le recours à une propagande appropriée. Opinion publique et propagande formeraient un couple de notions complémentaires. L'apogée de l'opinion publique, c'est une banalité, étant les sondages d'opinion à répétition jusqu'à saturation. Or, comme l'a montré Pierre Bourdieu, dans un texte célèbre qui est aussi un texte d'humeur, l'opinion publique n'existe pas. Les sondeurs recueillant les avis de gens plus ou moins autorisés, plus ou moins concernés, qui sont interrogés au moyen de questions biaisées. La fonction des sondages, selon Bourdieu, est d'imposer l'illusion qu'il existe une opinion publique dominante, une opinion moyenne, résultant de l'addition des opinions individuelles. Et je cite Bourdieu, « L'opinion publique est avec nous, comme on disait, Dieu est avec nous. » Donc, avant 1750, pas vraiment d'esprit public ou d'opinion publique. Malgré tout, on veut bien reconnaître que celle-ci a existé dans la cité grecque. Disons, à la grande époque de la démocratie et de la démagogie athénienne. À Athènes, l'élaboration de la loi ne se faisait pas sans l'intervention des citoyens. Il y avait un espace public où se formait et se déployait l'opinion publique. L'agora comme lieu, l'ecclésia comme instance publique. Mutatis mutandis, il en irait de même à la grande époque de la République romaine. Je vous renvoie à l'ouvrage classique de Claude Nicolet sur le métier de citoyen à Rome. On pourrait aussi parler d'opinion publique à Byzance dans le cadre de l'hippodrome. Une autre idée serait que les choses commencèrent quand même à bouger avec la Renaissance, avec la Réforme, voire tous les débats que suscitèrent en France les guerres de religion, et bien sûr avec l'imprimerie. Comment ne pas citer dans cette enceinte, dans ce lieu, le cas des Mazarinades, au moment de la Fronde, entre 1648 et 1652, au nombre, dit-on, de 5000, représentant 100 000 pages, certes imprimées, mais destinées avant tout à l'oralité. Les Mazarinades, je n'insiste pas, ont fait l'objet, assez récemment, de deux études magistrales et complémentaires, celle de Christian Jouot, celle d'Hubert Carrier, la première peut-être moins innocente que la deuxième. Les Mazarinades, chantées, jouées, avaient tout un aspect festif, mais aussi, bien sûr, une dimension politique, puisqu'il s'agissait d'une littérature d'action destinée à, je cite, « la conquête de l'opinion ». On a pu étudier, sous l'angle de l'opinion publique, la diffusion des pamphlets dans l'Angleterre du XVIIe siècle, pendant et après Cromwell, avant et pendant la Glorious Revolution de 1688. Sandro Landi, dans un livre de 2006, « Naissance de l'opinion publique dans l'Italie moderne, sagesse du peuple et savoir du gouvernement de Machiavel aux Lumières », s'est interrogé sur les conditions politiques et culturelles qui ont permis l'émergence et la connaissance de cet acteur essentiel de la modernité politique. Après ce préambule, venons-en à la période médiévale. Une première réaction serait de nier qu'il pût y avoir une authentique opinion publique, car l'on serait en présence d'une population non seulement illettré, mais massivement ignare, dispersé, émietté en de multiples petits groupes, n'ayant pas la taille critique suffisante, soumise à un dominium clérical et féodal écrasant qui ne lui laisserait le choix qu'entre la résignation ou la révolte, entre l'effroi et l'apathie. Et cependant, depuis une génération, une tendance de fond au sein de la médiévistique française, internationale, la médiévistique spécialisée en histoire politique, est d'utiliser sans complexe le concept d'opinion publique, corrélé à d'autres concepts ou à d'autres termes tels que rumeur, propagande, bruit, murmure, cri, doléance. Un moment privilégié pour l'appréhension de l'opinion publique serait le règne de Charles VI, le roi fou, au tournant des XIVe et XVe siècles, en raison précisément de l'incapacité du roi à diriger directement les affaires, d'où une crise de pouvoir, d'où les divisions, d'où la guerre civile, à une époque où le conflit franco-anglais n'était pas terminé, ou démarrer une certaine croissance de l'État, notamment en matière fiscale, d'où bien des mécontentements, à une époque aussi où le grand schisme divisait la chrétienté et où le thème de la réforme, la réformation, prenait toute son ampleur. Cette opinion publique, on peut la saisir, en particulier à Paris, par différentes sources, processions, pamphlets, partis, prédications, complaintes et clameurs, et jusqu'aux émeutes. Je vous renvoie ici aux travaux de notre confrère Bernard Guenet et de Claude Gauvard, suivis par des auteurs de langue anglaise, dont je vous fournirai les noms lorsque ce texte sera ou s'il est imprimé. À la faveur de cette crise de pouvoir, le peuple, pour ainsi dire, a émergé, non sans que beaucoup s'en inquiètent, justement Christine de Pizan. D'autres périodes peuvent être scrutées selon la même problématique. Disons que j'ai résisté à la tentation d'évoquer devant vous l'histoire de Jeanne d'Arc sous l'angle de l'opinion publique. Je citerai simplement le fait que, après la mort de Jeanne d'Arc, eh bien, il y a eu une campagne d'information entreprise par ceux qui l'avaient condamnée pour expliquer aux gens, notamment aux femmes, notamment en France, la vérité sur son cas. Chaque évêque était prié par le roi Henri VI, roi de France et d'Angleterre, dans les lieux de son diocèse, qui lui semblait approprié, par prédication, serment public et autrement, de faire connaître ces choses pour le bien et l'exaltation de notre foi et l'édification du peuple qui, à l'occasion des œuvres de cette femme, a été longtemps trompée et abusée, car il convient, citation, à votre dignité, que vous pourvoyez ainsi qu'il appartient à votre dignité et à ce que personne du peuple, à vous confier, ne présume de croire légèrement en de telles erreurs et périlleuses superstitions. Le peuple à vous confier, l'opinion publique, le peuple. S'il y a opinion publique, c'est qu'il y a peuple. À vrai dire, cette tendance historiographique, à l'heure actuelle en plein essor, n'est pas si récente que cela. Je me sers de la recension par l'éminent spécialiste des universités médiévales que fut à la fin du XIXe siècle Paul Fournier, membre de l'Académie des inscriptions, des trois volumes parus entre 1891 et 1897 par les soins des célèbres Monumenta Germaniae Historica, De Libelli Delite Imperatorum et Pontificum du XIe et du XIIe siècle. Les Libelli Delite, tous ces libelles sur ce conflit entre les papes et les empereurs que suscita, notamment en Italie et en Allemagne, la querelle entre les deux pouvoirs, le pouvoir pontifical et le pouvoir impérial. On pourrait penser, dit Paul Fournier, que cette querelle mit aux prises une étroite église et une étroite élite d'hommes d'église et de grands féodaux. Mais ce serait une erreur. L'ébranlement que cette lutte produisit, s'étendant de proche en proche à toutes les classes de la société, finit par gagner les masses populaires. Il serait revenu à Grégoire VII, par une inspiration géniale, je cite Paul Fournier, de faire appel à la conscience du peuple chrétien. La conscience du peuple chrétien. Et Paul Fournier cite, au sein de ses libelles, l'écolâtre Vinric de Trèves, se plaignant vers 1080 de l'action des missionnaires lancés par la papauté à travers le monde pour dénoncer à tout vent l'indignité de l'empereur Henri IV. Auquel répondit le moine Manegold de Lautenbach, qui gémit de l'effet de Lautenach, qui gémit de l'effet produit par le pamphlet de Vinric, dont on cause, dit-il, sur les places publiques et jusque dans les ateliers où travaillent les femmes, au grand scandale des finances, des fidèles et bien sûr de l'Église. Alors on imagine la chose, donc les ateliers, travaillent les femmes, la broderie, etc., etc., se préoccupant du débat entre l'empereur et le pape. Pure rhétorique, point d'interrogation. Paul Fournier ne va-t-il pas trop loin quand il compare ces libelles à la portée inévitablement restreinte aux brochures qui alimentaient le débat politique sous le Second Empire en un temps où la presse quotidienne subissait un étroit contrôle. Bon, un premier exemple qui n'est peut-être pas très convaincant, mais malgré tout, il y avait un peuple chrétien, et peut-être que ça diffusait plus qu'on ne s'imagine. Un autre exemple me semble plus pertinent. Pour Edgar Boutaric, dans son livre « Pionnier sur Philippe le Bel », 1861, ce dernier, Philippe le Bel, lors de sa grande lutte contre Boniface VIII, je cite, « comprit la puissance de l'opinion publique, et l'opinion publique lui fut favorable, y compris celle du tiers-État, dont il fit pour la première fois un corps. » On croirait entendre Augustin Thierry. Voici ce que dit effectivement un chroniqueur du temps, je cite, « Le roi voulut avoir le jugement ou l'assentiment des hommes de toutes conditions de son royaume, aussi proposait-il d'emporter avec lui le jugement délibératif, non seulement des nobles et des lettrés, mais aussi des citoyens et des laïcs. » Voyons les choses de plus près. Sous Philippe le Bel, il y eut trois moments politiques importants vus sous cet angle. La consultation de 1303, la réunion de Tours en 1308, la réunion à Paris du 1er août 1314. Je me concentrerai sur le premier de ces moments, la consultation de 1303. De quoi s'agit-il ? On peut partir de la bulle Osculta Fili du 5 décembre 1301, par laquelle Boniface VIII, d'un ton paternel, reprochait au roi de ne pas l'écouter. « Nous sommes fatigués de t'avertir, de te corriger et de mieux gouverner ton royaume. Tu fais la sourde oreille, tu opprimes tes sujets, tu fais du tort aux églises, aux clercs, aux laïcs. Ta conduite tyrannique vis-à-vis des pairs, barons et autres nobles, des communautés et du peuple de ton royaume suscite le mécontentement. Notamment, cela atteignait tout le monde en raison de la falsification des monnaies à laquelle tu procèdes. En outre, avec d'autres princes, tu es responsable de la perte de la Terre Sainte. Dès lors, je suis amené, je glose, à réunir à Rome un concile qui prendra les mesures nécessaires où tu peux venir et te faire représenter. De fait, parallèlement à la bulle Osculta Fili, le pape donnait l'ordre aux prélats, chapitres, docteurs en théologie et en droit, aux abbés de différents monastères, Citeaux, Cluny, Prémontré, Saint-Denis, Marmoutier, de se trouver à Rome le 1er décembre de l'année suivante, 1302, afin de, je cite, « traiter, disposer, statuer, faire et ordonner ce que nous estimerons nécessaire à l'honneur de Dieu et de Sainte-Église, à l'accroissement de la foi catholique, à la conservation des libertés de l'Église, à la réformation du roi et du royaume, à la correction des excès et au bon gouvernement du royaume. » D'où la réplique indignée, furibarde, furieuse, de Philippe le Bel, qui s'exprima notamment par le discours de son garde du Sceau, Pierre Flotte, prononcé devant une grande assemblée à Notre-Dame de Paris le 10 avril 1302. Il y eut ensuite le consistoire pontifical du 25 juin 1302, au cours duquel le pape maintint sa décision de réunir son concile et affirma son pouvoir de déposer le roi de France comme on renvoie un valet. Le terme latin est garcio. Là-dessus survint la bataille de Courtrai du 11 juillet 1302 qui vit la lourde défaite de l'armée française contre les Flamands. Philippe le Bel, affaibli, était sur la défensive. Le concile éclair qui se tint à Rome le 30 octobre 1302, eut beau ne compter qu'un assez petit nombre de prélats français, Boniface VIII se sentit assez fort pour promulguer la constitution Unam Sanctam du 18 novembre, manifeste impérieux de la théocratie pontificale. La situation militaire s'étant plus ou moins rétablie, le roi, à l'instigation de Guillaume de Nogaret, de célèbre mémoire, repartit à l'offensive l'année suivante, au début de 1303, en imaginant, avec une certaine audace, la convocation d'un contre-concile chargé d'examiner la conduite du pape et éventuellement de le condamner et de le déposer. C'était quand même une première dans la longue histoire de la chrétienté latine. Il y avait déjà eu des antipapes, mais cette sorte de procès en règle fait contre Boniface VIII, c'était quand même quelque chose d'exceptionnel. D'où une série de réunions à Paris entre mai et juin 1303. Y furent présents des barons, des nobles, des prélats, auxquels fut demandé d'adhérer à la démarche royale. Mais c'était insuffisant. D'où l'idée d'envoyer des commissaires royaux sur place, à travers le royaume, pour exposer au peuple le problème, dénoncer les erreurs et les vices de Boniface VIII, il ne manquait pas, et la solution, un concile universel. À la réforme du royaume répondrait la réforme de la papauté et de l'Église. Cette vaste campagne d'information déboucha sur des actes ou des procès-verbaux d'adhésion individuelle ou collective qui furent soigneusement archivés à Paris, dans le trésor des chartes, lequel était installé dans une modeste pièce attenante à la Sainte-Chapelle. Malgré la déperdition, un très grand nombre de ces pièces subsistent toujours dans la série J des Archives nationales. Or, elles ont été éditées en 1901, sous la forme d'un épais volume, 850 pages et une quarto, intitulé « Documents relatifs aux États généraux et assemblées réunies sous Philippe le Bel », par votre secrétaire perpétuel d'alors, Georges Picot, dans la collection des documents inédits sur l'histoire de France, créée en 1835 à l'initiative de François Guizot, votre père fondateur. Pour l'anecdote, j'en suis à l'âge de l'anecdote des préfaces, il se trouve que je possède l'exemplaire que Georges Picot offrit à son très affectionné confrère Paul Leroy-Beaulieu. Le processus fut assez complexe. C'est ainsi que pour les trois sénéchaussées de Languedoc, Beaucaire, Carcassonne et Rodez, une assemblée devait se tenir à Montpellier le 22 juillet 1303 en présence des commissaires royaux qui exposerait la volonté du roi. En amont, des assemblées locales étaient prévues pour désigner leurs représentants à l'Assemblée de Montpellier. C'est ainsi que le peuple de la communauté des hommes de Lunel, dans le département de l'Hérault actuel, fut convoqué publiquement au son de la trompette. Il se réunit le 14 juillet dans le cimetière de l'église Notre-Dame. Il y avait là un chevalier, neuf damoiseaux, donc chevaliers damoiseaux, c'est le groupe des nobles citadins, et 389 simples habitants, dont on a les noms et quelquefois les professions. Cette assemblée générale des gens de Lunel désigna quatre procureurs, le chevalier en question, un des damoiseaux, un juriste, un drapier, pour les représenter auprès des commissaires royaux dont on a les noms. Il y a un clerc, il y a un laïc, il y a deux laïcs et un clerc. Le clerc, c'est un certain Denis de Sens, clerc du roi. Et puis les laïcs, c'est Amaury, vicomte de Narbonne et Guillaume de Plaisian, dont on connaît par ailleurs, pour écouter ce qui leur sera dit de la part du roi, je cite, « touchant le bon état et du royaume et de tous les grénicoles et de toutes les églises du royaume ». Qu'est-ce que ces braves gens de Lunel pensèrent de tout cela? Nous l'ignorons. On peut supposer qu'ils avaient déjà entendu parler du différend entre le pape et le roi, qu'ils en avaient discuté de façon informelle dans des tavernes ou ailleurs et que certains d'entre eux s'étaient forgé leur opinion. De toute façon, à Lunel, l'adhésion à la thèse et la demande royale ne semble pas avoir fait problème. Mais à Montpellier, à l'échelon supérieur, il en fut autrement. Il y eut une esquisse de délibération entre les procureurs qui se réunirent séparément, selon la formule du temps, le clergé, la noblesse, les villes. Des réticences, des hésitations se manifestèrent, surtout de la part des gens d'église qui souhaitaient ne rien faire contre l'autorité du siège apostolique et l'unité de l'Église catholique. Il y eut quand même, pour le clergé, 45 adhérents, dont les sceaux pendent encore à l'original conservé à Paris. Pour les nobles, 32 seigneurs des sénéchaussées de Carcassonne et de Rodez, plus les mandataires du comte de Foix, tous adhérèrent. Adhésion aussi des représentants de 68 villes. Il y eut quand même des oppositions très nettes, émanant par exemple des dominicains et des consuls de la ville de Montpellier. Des commissaires royaux se tenaient en permanence, dont le couvent des franciscains, multipliant les conférences, les harangues, pour faire céder les timides et isoler les meneurs. Les consuls de Montpellier firent lire un mémoire en français et non pas en occitan, qui contenait d'expresses réserves. Les commissaires se rendirent le 28 juillet au couvent des dominicains pour faire céder le prieur et les frères. Il y eut 4 adhésions contre 33 refus. Et ces 33 frères qui avaient refusé furent aussitôt expulsés du royaume de France. Toujours dans le même secteur, une autre assemblée eut lieu à Nîmes le 6 août. En tout, du 22 juillet au 19 août, d'après les sources que nous conservons, éditées par Georges Picot, les 3 commissaires recueillirent l'adhésion de 3 évêques, 110 abbés, prieurs et chapitres, une centaine de chevaliers et de damoiseaux, et plus de 120 villes. Et ailleurs dans le royaume. Voici le cas de Bourges, où le commissaire du roi fut Jean d'Auxy, chantre de l'église d'Orléans, clerc du roi. Réunion au son de la cloche, le dimanche 4 août 1303, des chanoines de la cathédrale de Bourges dans la salle capitulaire, ils adhèrent. De même les frères prêcheurs au nombre de 38, les frères mineurs au nombre de 23. Et le lendemain, à la 3e heure, 8 heures du matin, en présence du même commissaire, il y a eu une assemblée générale des habitants de Bourges, convoquée par le crieur de la ville, selon la coutume, des habitants de Bourges et des faubourgs. Le texte dit « magna multitudo ». Il évoque le fait que les lettres royales ont été expliquées en langue vulgaire, de façon ordonnée, « seriatim », et d'une façon unanime, cette assemblée de bourgeois, de citoyens de la ville de Bourges, donna son accord. Nul ne contredit. Placette, oui, oui. Et cela continua dans l'après-midi du lundi. Et puis ensuite, les 4 et 5, il y eut d'autres réunions, et même des couvents féminins furent consultés, en présence de l'abbesse et de la prieure. Évidemment, il y avait de l'ambiguïté dans cet appel au peuple. Pour les légistes du roi, il s'agissait d'une mise en accusation du pape, d'une demande formelle de déposition. Pour les ecclésiastiques, c'est là, disons, l'opinion qu'on connaît le mieux, qu'on saisit le mieux, il s'agissait plutôt de... à la plus haute autorité de l'Église, cette sorte de concile, de convoquer le pape pour l'innocenter. Mais quelle était l'idée des seigneurs, des barons, des nobles, l'idée des communautés urbaines, prévenues par leur crieur public ou par son cloche, rassemblées dans une église, aux halles, au cimetière? En avait-il même une? Faisait-on avant tout confiance au roi et à ses agents? Robert Favetier pense déceler ici, à l'échelle du royaume, un certain sentiment national. Pour lui, l'appel du roi à son peuple eut un plein succès. Élargissant son propos à l'ensemble du règne, Robert Favetier conclut que la politique de collaboration, limitée à son gouvernement, menée par Philippe le Bel, d'appel à l'opinion publique, s'explique avant tout par les circonstances. Il fut contraint de chercher un appui moral dans la consultation de 1303, renouvelée en 1308, pour faire pression sur le Saint-Siège. et en 1314, la nécessité d'obtenir de son peuple dans les meilleures conditions des sacrifices financiers extraordinaires et d'une ampleur sans précédent l'amenèrent à employer une forme diluée du même procédé. Et ce n'est pas simplement Robert Fafty qui a le même sentiment, mais également un spécialiste américain du règne de Philippe le Bel, Joseph Stryer, qui constate que, certes, en 1303, la propagande et la crainte de déplaire au roi jouèrent leur rôle dans ces adhésions, mais celles-ci exprimaient, dit-il, les sentiments de base du peuple de France doué d'une conscience politique, de la partie du peuple de France doué d'une conscience politique. Et il constate qu'il y eut, sous le règne de Philippe le Bel, des émeutes au sujet des impôts, des manipulations monétaires, des conflits de juridiction, mais aucune en faveur de Boniface VIII. Information, consultation, communication. On aimerait connaître le discours des commissaires, dans quelle langue, la réaction, les éventuelles questions, les débats, s'ils eurent lieu, durent être brefs, expéditifs. On peut penser que si Philippe le Bel se lança dans cette campagne, c'est qu'il était plus ou moins sûr du résultat escompté ou attendu. Il a voulu prendre à témoin l'opinion publique et en même temps la rallier à sa cause. Peut-être la critique de Pierre Bourdieu, je reviens à lui, s'applique-t-elle ici, mutatis mutandis. On feint d'identifier une opinion publique préexistante alors qu'elle est le produit de cette démarche. Philippe le Bel et son équipe ont créé une opinion publique telle un artefact. Artefact. Ce qui est sûr, c'est que, au regard des sources disponibles, la consultation de 1303, allant du centre vers la périphérie et puis retour par le rassemblement des documents, est assez unique dans les annales de l'histoire médiévale de la France. On est frappé de l'étendue géographique. Une grande partie de la France fut touchée, de Montpellier à Calais, de l'extrémité de la Bretagne, Morlaix, la pointe Saint-Mathieu, à Luxeuil. Cela dit, il y aurait bien de la naïveté ou du parti pris à rapprocher la démarche de Philippe le Bel en 1303 de celle de Louis XVI en 1788, dont le premier cas, rapidité, oralité, passivité et surtout stérilité. Il n'y a pas eu de lendemain. Il n'y eut pas de concile, Boniface VIII ne fut pas déposé, il y eut un acte de violence, l'attentat d'Anagni, suivi de sa mort le 11 octobre 1303. Au-delà des apparences, et je conclurai ainsi, et malgré les tentations, l'historien doit éviter de tout confondre. La voix et la commune renommée qui courent à travers tel ou tel pays au sujet de tel événement politique. Ainsi, la revendication du roi d'Angleterre à la couronne de France, dont parle le chroniqueur Jean Froissart, n'est pas identique à l'opinion publique articulée qu'on voit à l'œuvre dans la vie politique du XIXe siècle. Cela dit, la question demeure entre la commune renommée des années 1400 et l'opinion des années 1900. Le changement est-il de degré ? Ou de nature, serait-on passé des premiers vagissements à une pleine maturité, ou plutôt d'un régime politique à l'autre ? Je vous remercie.